Bruit de Chine sur le 106.6 de Radio Campus Lille jusqu'à 13h. Nous sommes en compagnie de la réalisatrice Fabiani Deschamps, qui vit entre la France et le Portugal, et dont le premier long métrage, New Territories, est sorti en France il y a quelques mois. Ce film nous emmène de la Chine du Sud à Hong Kong, qui est d'ailleurs merveilleusement filmé, et nous raconte l'histoire d'une Française et d'une Chinoise, aux prises avec des événements que ni l'une ni l'autre ne maîtrisent. Alors Fabiani Deschamps, vous venez du théâtre, vous avez fondé une compagnie, vous faites des installations, de la vidéo. Alors d'où vous vient ce besoin de cinéma et particulièrement de long métrage ?
Ni ha, d'abord, rue de Chine.
C'est vrai, il faut se mettre au diapason.
Ben oui, il faut se mettre au diapason, voilà, je ne sais pas le dire en cantonais. Le cinéma, je viens du théâtre, déjà pour moi il n'y a pas vraiment de compartimentage à partir du moment où on voue sa vie à une forme de création artistique. Après le matériau d'expression, quel qu'il soit, en fait ne reste qu'un support. Donc après c'est plutôt la société, les économies et les industries qui compartimentent les choses. Donc effectivement, moi j'ai étudié très longtemps pour faire de la mise en scène de théâtre, mais aussi écrire des histoires. Et le cinéma, finalement, c'est arrivé comme un accident, mais un heureux accident. Et peut-être aussi parce que de tous les arts, c'est celui que je maîtrisais le moins. Je ne viens pas d'une famille cinéphile. Je suis allée jeune très peu au cinéma. J'avais très peu de lien avec l'image animée. Donc je pense que finalement, par rapport aux autres arts plastiques, le théâtre, l'écrit, où j'avais fait quand même beaucoup d'études à ce sujet, il y avait, pour moi, le cinéma, c'était un terrain de liberté totale où j'étais pas écrasé par mes pères spirituels et qui était un territoire de liberté, voilà, parce que j'en maîtrisais absolument pas les codes.
C'est finalement la nouveauté qui vous a intéressé.
La nouveauté, puis effectivement le fait d'entrer dans une grammaire qu'on maîtrise absolument pas et où du coup on peut vraiment explorer, voilà, sans le poids des pères spirituels, sans le poids d'une grammaire préétablie, et aussi amener des choses, voilà, de travailler effectivement sur des hybridations formelles, voilà, pour parce que le cinéma c'est un médium évidemment qui est très codifié, voilà, où on attend des films de fiction réalisés d'une certaine manière ou du documentaire fait d'une certaine manière, mais ça reste un endroit de spectacle, un forum social de spectacle, et où on peut expérimenter plein de formes. Donc c'est pour ça que je me suis engouffrée dans cet accident qui était le cinéma.
Voilà. Et puis le cinéma, on peut expérimenter et toucher aussi un très large public. Alors un mot peut-être sur vos films précédents avant d'aborder New Territories ?
Alors j'ai un parcours assez classique, on va dire. Donc j'ai tourné 5 courts et moyens métrages. Voilà, donc évidemment le court métrage, ce qui peut être assez frustrant, c'est qu'on reste, voilà, dans une niche de public qui est très liée au festival, même si les films ont fait le tour du monde, mais c'est aussi un endroit où effectivement on travaille une forme, même si la forme courte est une expérience narrative en soi et pas seulement la carte de visite vers un long métrage et tout, effectivement toutes les lourdeurs aussi financières qu'entraîne la mise en production de projets pour la salle. Donc j'ai tourné 5 films avant, qui sont formellement très différents de New Territories, qui étaient des films, je pourrais dire, de studio. Voilà, beaucoup des films à dispositif, des films de studio, des films de décor, voilà, qui travaillaient autre chose sur la narration. Et New Territories, c'est la première fois que j'ai mis une caméra à l'extérieur, ce qui était pour moi pas simple du tout. Mais du coup, c'était intéressant d'appréhender, c'est-à-dire une réalité documentaire comme on travaillerait dans un studio de cinéma fermé. Voilà, donc c'est un peu la différence entre le parcours des courts-métrages à ce long-métrage, c'est qu'il y a eu quand même un basculement esthétique radical entre des courts-métrages qui revendiquaient vraiment une artificialité à la fois dans la narration mais aussi dans le dispositif, la mise en scène, et New Territories qui, même si c'est intégralement un film de fiction, propose une interaction, une revisitation du réel, mais aussi de l'actualité du monde en marche.
Voilà. Alors, comme grand studio à l'extérieur, pour votre première fois, vous avez choisi la Chine, ce qui est pas mal, parce que ça fait, c'est grand. Et justement, pourquoi la fiction ?
parce que je pense que la réalité, en tant qu'artiste, la réalité m'intéresse pas beaucoup, c'est-à-dire cette idée de la restitution du réel, en tout cas sous sa forme la plus directe, et ce que font de merveilleusement bien de superbes documentaristes, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse moi dans ma démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de proposer une expérience déréalisée du monde, et de déréaliser du monde, ou en tout cas d'en détourner des matériaux, détourner des matériaux du réel pour les emmener ailleurs, et aussi dans des expériences de cinéma où, même si l'aspect narratif, l'aspect de fond, l'aspect politique compte, le cinéma pour moi c'est avant tout une expérience sensorielle. Voilà, donc c'est le pari d'un film, en tout cas. Mon pari à moi, c'est de travailler, que ce soit à partir du réel ou du factice, pour proposer une expérience sensorielle. Voilà, c'est ce qui compte le plus pour moi. C'est moi, en tant que spectatrice, c'est ce que je vais chercher au cinéma. Voilà, plus que de la narration, par exemple.
Finalement, c'est plus une démarche d'artiste, presque vidéaste, que de réalisatrice. Alors, vous dites, il relève d'un devoir politique de ne pas laisser seuls les médias rendre compte de l'état du monde. Mais c'est un sacré pari, puisque en tant que cinéaste, vous souhaitez rendre compte de cet état du monde, mais avec tout cet aspect, je dirais, esthétique et sensoriel. C'est pas facile.
Oui, mais moi je crois beaucoup en cette double approche, et finalement on ne... Ce qui est aujourd'hui est communément admis de la mise en scène médiatique perpétuelle, on s'aperçoit aussi l'échec, c'est-à-dire que plus on entre dans un monde d'information, plus on rentre dans un monde où la vitesse de l'information annihile en fait tout impact émotionnel, parce qu'on ne peut pas vivre dans un flux tendu en permanence, et de le cinéma, notamment le fait de s'enfermer dans une salle et d'aller se prêter à cette espèce de rituel très ancien d'aller assister à un spectacle qui est donné à voir, pour moi elle incarne vraiment le projet de pouvoir éclairer différemment les choses, et effectivement sur des choses d'actualité très aiguë, il faut que cet espace, qui est cet espace encore ritualisé, voilà, puisse servir d'alternative au médium d'information, voilà, qui occupe, qui monopolise l'espace sans parvenir nécessairement à faire de l'information.
Finalement, vous plaidez pour la distance. Alors, rien de ce que vous avez fait auparavant ne vous prédestinait à faire un jour un film sur la Chine. Qu'est-ce qui vous a envie de donner envie de tourner en Chine ?
Alors, bon, à titre personnel, je suis comme beaucoup de gens, et beaucoup de gens, j'espère, qui écoutent cette émission, fascinés par l'Asie en général. Et donc, j'ai beaucoup voyagé là-bas, notamment à Hong Kong, qui est vraiment... pour moi, un studio de cinéma à ciel ouvert. Enfin, c'est un lieu avec un projet urbanistique complètement dingue, où tous les extrêmes en fait sont réunis. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à Hong Kong.
Et ils sont réunis sur une toute petite surface. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on le prend en pleine figure.
Oui, il y a une espèce de densité, c'est-à-dire de densité. Il y a quelque chose où on est à l'essence des choses, quoi. Tout cohabite pleinement, et avec intensité. Donc c'est vraiment un territoire unique, et aussi en tant qu'occidental voyageant énormément en Asie, Hong Kong c'est un miracle, c'est quand même le seul endroit au monde où il y a ce portail entre le monde occidental et le monde, alors chinois, hongkongais, je ne sais pas, cantonais, voilà, Hong Kong est un bijou culturel pour ça, parce que c'est le seul endroit avec Macao où cette chose-là existe.
Mais on le sent très très bien dans vos images, on sent votre amour de la ville en tout cas.
Oui, c'est une ville organique, voilà, où cohabitent effectivement le pire et le meilleur. C'est des choses aussi qu'on entend beaucoup, même si, encore une fois, moi je suis vraiment pour séparer l'expérience hongkongaise de l'expérience chinoise, même si Hong Kong a été rétrocédé à la Chine. Pour moi, Hong Kong n'est pas la Chine, comme pour beaucoup de Hongkongais encore aujourd'hui,
et ils sont pas sûrs que ça le reste.
Je ne sais pas ce qui va être en marche. Effectivement, depuis la révolution des parapluies, je ne sais pas vers quel chemin va prendre Hong Kong. Mais donc après, en dehors de l'aspect voilà culturel, esthétique, d'être dans cette folie architecturale et cette folie naturelle aussi qui est Hong Kong, la chose qui a fait que j'ai fait ce premier long métrage en Chine et déployé l'énergie pour que ce film puisse se faire dans des conditions difficiles, c'est le sujet. C'est le sujet que je croise, on va dire, accidentellement dans la presse anglophone hongkongaise, qui est à peu près le dernier organe de presse qui ne subit pas une censure lapidaire. Et donc, où on arrive encore à faire percer certains types d'informations qui, en Chine continentale, sont complètement censurées. Et donc je tombe sur un fait divers, mais très très succinct, mais qui du coup va déterminer plusieurs années de ma vie, puisque voilà, faut plusieurs années pour faire un film. Et ce fait divers est le suivant. Il dit que donc à quelques centaines de kilomètres de Hong Kong, de l'autre côté de la frontière, dans le Guangdong, depuis des années, des dizaines, voire des centaines de personnes étaient portées disparues sans que jamais on ne retrouve leurs traces. Et enfin, ce mystère venait d'être résolu et il s'avérait que toutes ces personnes, donc on parle de centaines de personnes, avaient été assassinées par des membres des triades hongkongaises qui avaient organisé un commerce funeste qui consistait en fait à kidnapper des gens, les assassiner pour vendre leur corps comme corps de substitution à l'incinération devenue obligatoire. Donc évidemment, dit comme ça, évidemment, moi, la première chose en tant qu'occidentale, n'étant pas informée sur la nature des rites funéraires et leurs abrogations en Chine, la première chose, je me dis, mais pourquoi tuer des gens pour en enterrer d'autres, en fait, parce que le but, donc, ces corps étaient vendus pour qu'ils soient substitués à d'autres, pour que les Chinois puissent continuer à enterrer leurs morts selon les traditions. Et là, je découvre qu'effectivement, que depuis la révolution culturelle, l'incinération est devenue obligatoire. Beaucoup de gens disent pour des raisons démographiques, pour des raisons écologiques, pas du tout. Ça fait partie du projet culturel et idéologique de la révolution culturelle qui était d'abroger toute forme de pratique religieuse, mystique. Parce qu'on sait qu'en Chine, il n'y a pas une religion d'État, c'est des mélanges, des hybridations de plein de traditions, et que effectivement, les rites funéraires étant relativement lourds, on avait trouvé, voilà, pour éviter les cultes, voilà, de rendre l'incinération obligatoire, on empêchait la manifestation des rituels. Et donc, ce que je découvre également. C'est évidemment, je me dis, bon, enfin, pourquoi tuer des gens pour enterrer des morts? C'est-à-dire, c'est quoi le rapport de valeur? Qu'est-ce qui fait que dans cette société, un mort ou le rite rendu à un mort a plus de valeur qu'une vie humaine?
Alors, finalement, la réponse, vous l'avez, c'est la valeur qu'on attache à un mort, c'est lié au culte des ancêtres.
Exactement. Voilà. Et évidemment, c'est des choses que j'avais rencontrées, traversées lors de mes multiples voyages, mais je m'étais pas rendu compte à quel point, effectivement, à quel point le culte des ancêtres, la piété filiale, conditionnait non seulement le bien-être des morts, mais conditionnait la manière d'être des vivants.
Le bien-être des vivants aussi.
Et effectivement, le bien-être aussi de toute la descendance à venir. Et là, de ce fait, on comprend mieux par quelle logique on peut passer pour rendre le culte qu'il se doit à ses morts à tout prix, même à faire tuer des gens en parallèle pour y parvenir.
Oui, Confucius est jamais loin dans la Chine d'aujourd'hui. Ce qu'il faudrait préciser, c'est que donc on ne brûlait pas ses morts avant Mao, car selon la tradition, on allait en enfer. Donc c'est encore pire dans ce que vous expliquez, puisque on fait brûler un autre cadavre qu'on n'hésite pas non seulement à brûler, à tuer, mais à envoyer en enfer.
Tout à fait, tout à fait.
Bon, voilà. Est-ce que vous vous êtes documenté sur cette mafia chinoise, les triades, qui est tout aussi puissante que la mafia italienne, sinon plus?
Pas vraiment. C'est-à-dire que, d'une part, déjà, ça a été extrêmement difficile de se documenter sur le sujet, parce qu'évidemment, immédiatement après la découverte de ce fait divers qui me, on va dire, qui me hante, et je me dis il faut absolument que je découvre des choses là-dessus. Effectivement, je fais un petit peu de recherche, d'investigation, et là je découvre que c'est un tabou total, mais un tabou total, c'est-à-dire aussi bien à titre individuel, c'est-à-dire d'aller voir des gens, des Chinois, et leur parler de cette nécessité et de voir le, voilà, à quel point les cette question de la malmort, la question des fantômes, c'est une question qui est extrêmement sensible à titre individuel, à titre politique, de surcroît. Donc je trouve extrêmement peu d'informations sur place. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux triades, d'ailleurs elles sont peu évoquées dans le film, parce que le film propose un autre... Voilà, il propose un autre angle, et voilà, les maillons du commerce, en fait, finalement, sont relativement classiques. C'est une bande de brigands, qu'elles viennent de Hong Kong ou d'ailleurs, voilà, qui décident de faire marchandises de corps. Et donc, je m'axe pas beaucoup sur les triades hongkongaises. Et très vite, je m'aperçois que si je veux aller tourner en Chine sur ce sujet, il faudra que je sois extrêmement discrète et que je n'ai aucun intérêt, en fait, à chercher des informations en Chine continentale. Donc, c'est plutôt auprès des diasporas chinoises en France et ailleurs, grâce aujourd'hui à Internet, etc., que j'ai pu entendre une parole plus libre, et où les gens m'ont dit oui, en fait, ce cas n'est pas isolé, c'est un drame qui habite toute la Chine, alors évidemment la Chine plus rurale, plus traditionnelle, depuis très longtemps. Et donc, on découvre, en fait, que... Voilà, je découvre que peut-être ce fait divers est la forme, on va dire, la plus morbide, la plus extrême du contournement de la loi sur l'incinération, mais que partout en Chine se déploient des trésors d'ingéniosité, de tours de passe-passe dans les crématoriums, de substitutions, de bakchiches aussi, pour que les gens continuent à enterrer leurs morts. Et d'ailleurs, quand on traverse la campagne chinoise, alors évidemment, il y a les cimetières anciens, mais évidemment, moi, j'étais très attentive à ça, on découvre énormément, énormément de tombes clandestines cachées dans les forêts, dans la jungle, dans les champs, des choses qui sont vraiment faites à l'abri des regards, et des tombes récentes. Voilà, donc les gens continuent à être enterrés en cachette comme ils peuvent.
Finalement, c'est un vrai polar. Combien vaut un corps ?
Alors il était, je crois que c'était aux alentours de 900 euros, donc je pense que...
Le pour cours a monté, vous pensez ?
Pardon ?
Le cours a monté.
Je pense que le cours a monté, oui, inévitablement, mais déjà 900 euros à l'échelle peut-être des populations rurales, même si évidemment il y a le développement de la Chine économiquement exponentiel, et qui a aujourd'hui, une classe moyenne, voilà, ça, je pense que c'est une fortune. Donc, c'est vraiment pas un acte anodin. Voilà,
Non, c'est très profond. Est-ce que vous avez assisté à une fête des morts ?
Alors, une fête des morts, c'est-à-dire un enterrement, une crémation ?
Ou à la fête des morts ?
Alors, il y a plusieurs fêtes des morts, voilà. C'est pour ça que je pose la question, c'est-à-dire qu'il y a une fête des morts qui pourrait être un petit peu comme notre Toussaint à nous, qui se déroule sur une seule journée, et après, il y a une fête des morts qui dure plusieurs semaines, qui s'appelle la fête des esprits affamés, qui se déroule donc... C'est comme le Nouvel An chinois, c'est jamais à date précise parce que c'est via le calendrier lunaire. Mmh. Et donc, ça se déroule pendant la septième lunaison. Et donc, c'est en général juillet-août. Et donc, pendant la septième lunaison, soi-disant, la porte des entre-deux-mondes s'ouvre entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, c'est une période où beaucoup de rites sont accomplis afin de... Et on offre beaucoup d'offrandes, on donne beaucoup de spectacles, on rend particulièrement hommage à ces morts durant cette période pour les inviter à rester dans leur monde des morts. Donc c'est un moment où il y a énormément de porosité, et je sais que chez les personnes les plus superstitieuses, et il y en a beaucoup, c'est des périodes de l'année où les gens se déplacent peu. Par exemple, il fait très mal mourir durant la période des esprits affamés, parce qu'on sait qu'on va être prisonnier un peu dans cet entre-deux-mondes, entre vie et mort, et on a plus de chances d'être voué, on va dire, à une existence post-mortem fantomatique.
Une errance, en quelque sorte.
Pardon ?
Une errance.
Une errance ou quelque chose qu'on peut, qui finalement, qu'on peut comparer assez à Olympe catholique. En fait, vraiment, finalement, les mythologies funéraires sont toutes très proches et c'est quelque chose d'assez émouvant à étudier parce que c'est vraiment quelque chose qui nous met tous au monde. Voilà, la mythologie funéraire chinoise, en fait, elle est très très proche de la mythologie funéraire antique égyptienne. Dans les rites, il y a des passages, il faut prendre un bateau, il faut traverser un fleuve, on paye un passeur.
Ah oui, ils ont leurs sticks.
Ils ont leurs sticks, exactement, ouais.
Ah oui, c'est impressionnant les influences comme ça qu'on peut repérer sur la planète. Est-ce que vous savez d'où vient cette tradition de brûler du papier monnaie ou des objets en papier pour honorer les morts ?
Alors, en fait, ces papiers funéraires, en fait, représentent symboliquement de l'argent et des biens matériels. Alors, donc, effectivement, il y a ces petits papiers orange et doré qu'on plie, en fait, sont censés représenter des lingots d'or. Après, ce qui est fascinant, et je l'ai beaucoup vu à Hong Kong et en Chine du Sud, c'est que l'expression, évidemment, donc, il y a un autre monde. Ce monde, dans cet autre monde des morts, il y a comme une est construit en fait sur le même modèle que le monde des vivants. Donc il faut de l'argent, il faut des biens matériels pour pouvoir subvenir à ses besoins dans l'autre monde. Et c'est les vivants qui s'y prêtent. Donc c'est-à-dire que il y a de la monnaie symbolique, c'est-à-dire il y a des billets de banque avec marqué la banque de l'enfer dessus et on brûle ces billets de banque. Mais ça aussi une expression qui pour moi est extrêmement poétique tant elle est littérale, c'est-à-dire à côté des temples, on trouve des boutiques qui pour nous occidentaux ressemblent à des boutiques de jouets géants où en fait on a toutes les représentations contemporaines de notre société et de ce qui fait valeur dans notre société contemporaine qu'on achète. Donc ce sont des maquettes en carton qui représentent clairement des choses et on achète par exemple des iPhones en carton, on achète des sacs Vuitton en carton.
Tout à fait, c'est comme ça que à Hong Kong, j'ai acheté un ordinateur en carton. Il y avait aussi des Nike en carton, enfin bref, ou en papier. Effectivement, tout ce qui fait notre société a vocation à rendre hommage aux morts. En tout cas, on les trouve toujours aussi pragmatiques, ces Chinois. Alors, ce sujet, vous avez dit qu'il était quand même très très sensible aujourd'hui dans la société chinoise, le sujet des rites funéraires. Il est tellement sensible que finalement, vous avez tourné clandestinement votre film. Comment vous y êtes prise ?
Eh bien, après, déjà, ça a été vraiment une longue préparation. J'ai fait un certain nombre de choix. Je me suis aussi beaucoup, beaucoup renseignée. Donc, il faut savoir, en Chine comme ailleurs, surtout quand on est un réalisateur étranger, il faut demander des autorisations de tournage. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, je vais écrire un faux scénario, évidemment, que je vais envoyer pour que ça passe la censure et après je fais mon film. Mais en Chine, ça ne se passe pas comme ça.
C'était peut-être un peu naïf.
Non, c'est ce que beaucoup de réalisateurs font dans beaucoup de pays. C'est-à-dire, on dit pas exactement tout ce qu'on va faire.
Oui, mais la Chine, c'est pas beaucoup de pays.
Voilà, exactement. Et donc, en Chine, il y a un protocole qui est encore plus particulier, particulièrement lié aux réalisateurs étrangers, c'est qu'effectivement, on a une espèce de chaperon qui veille à ce que les choses écrites sont bien les choses effectuées en Chine. Donc, dès le début, pour moi, c'était impossible de tourner le film et ni même peut-être d'engager une équipe en Chine continentale que je laisserai ensuite après s'exposant à des risques, à toute forme de risque. Donc très vite l'idée a été de faire le film dans un dispositif extrêmement minimal. Il y avait aussi pas seulement pour des questions financières et des questions de protection, mais aussi pour des questions esthétiques. J'avais envie que le film travaille un endroit assez pauvre du quotidien, de travailler à partir de l'image documentaire et de détourner ces images pour pouvoir construire quasiment un thriller fantastique. Donc il y avait un certain vœu de pauvreté, c'est-à-dire comme le film raconte quand même principalement le voyage, ce voyage imaginaire de cette ouvrière chinoise qui fuit la pauvreté pour rentrer à Hong Kong, l'idée était de se mettre un petit peu à sa hauteur et d'épouser un peu ce chemin, donc ce voyage entre le Guangdong et un un passage clandestin vers Hong Kong avec le même vœu de pauvreté. Donc on est parti en équipe réduite avec des visas de tourisme. On a rentré le matériel en Chine continentale en plusieurs fois, histoire qu'on n'identifie pas du matériel son. Voilà, on a pris beaucoup de précautions, on s'est beaucoup déplacé et on a travaillé aussi principalement avec un appareil photo. Voilà, donc qui, quand bien même paraissait-il très professionnel, avec des très bonnes optiques, etc., faisait qu'on pouvait aussi s'immerger à l'intérieur des sites et qu'on n'ait pas la certitude qu'on soit en train de tourner un film. Et ça, on en a beaucoup joué, à la fois dans le dispositif de tournage, pour pouvoir vraiment se mêler aux événements du réel et trouver une place discrète et garder cette liberté au moment de la prise de vue.
Alors ce film, on vient de le dire, raconte autre chose que le macabre trafic que l'on vient d'évoquer, puisqu'il y a deux histoires qui se croisent, celle de Li Yu, la jeune ouvrière chinoise, et celle d'Ève, la jeune française qui vient faire des affaires. Alors, comment vous avez construit cette histoire croisée ?
Alors c'est certain que très vite, j'aurais pu évidemment raconter juste le fait divers au travers du parcours de cette ouvrière chinoise, mais évidemment il y avait au-delà, mon but n'était pas de faire un film ethnographique ni un documentaire sur le sujet. J'avais vraiment envie de construire ce film un peu comme presque comme une fable existentielle de notre monde à tous et de travailler justement sur ces porosités et des choses qui regardent beaucoup la Chine contemporaine sur ces questions d'ouverture et de l'entrée brutale de l'économie de marché en Chine continentale. Donc en tant qu'occidentale, j'avais absolument pas envie d'aller poser ma caméra et mon jugement sur la société chinoise et repartir seulement de cette seule expérience. Pour moi, ce rapport aux morts, mais aussi ce rapport à l'économie de marché est un miroir que j'avais envie de dresser à tous et le fait d'y intégrer un personnage occidental qui vient effectivement qui vient conquérir un marché chinois et de travailler en fait la mise en friction de ces deux regards de ces deux femmes qui sont complètement aux antipodes, voilà, c'était un moyen d'emmener le film aussi vers une fable on va dire plus générale et qui parle aussi généralement et sous une forme qui peut des fois frôler effectivement une forme de thriller ou une forme de film fantastique, de parler très clairement des ravages collatéraux de l'économie de marché, à la fois que ce soit à l'échelle individuelle mais aussi à l'échelle culturelle effectivement. Et Hong Kong contient effectivement ces expériences complètement paradoxales qui s'entrechoquent, c'est-à-dire la cohabitation d'un Eldorado capitaliste complètement décomplexé avec des rites traditionnels extrêmement anciens et
des poches de résistance.
Et des poches de résistance qui existent encore. Et donc, voilà, l'idée du film, c'était vraiment la collusion de deux mondes et de faire un peu une espèce de fable terrible sur l'économie de marché. Voilà.
En tout cas, dans votre film, la manière dont vous l'avez filmé, tout est dit et rien n'est dit. Parce que, bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Moi, je voulais savoir quand même cette histoire de nouveau procédé d'incinération que Ève veut vendre aux Chinois, c'est sérieux ou c'est
une blague ? Alors, c'est tout à fait sérieux. Donc, la coamation existe vraiment, parce que l'idée, c'est qu'elle vienne vendre, en fait, une alternative à l'incinération et ainsi de surfer, sur le marketing écologique, qui est très présent de nos jours et un marketing auquel on a tous du mal à résister de fait, parce qu'il part d'une bonne volonté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le marketing écologique, enfin voilà, que le capitalisme arrive toujours à récupérer les idéologies les plus vertueuses pour en faire des produits. Voilà, donc le... Le procédé d'aquamation, c'est un procédé effectivement écologique qui propose en fait une crémation à base d'eau. Et en fait, l'idée de collusionner l'entrée de l'aquamation avec la Chine, c'est une idée de pure fiction, c'est vraiment une idée de scénario. Après, l'aquamation existe réellement. C'est un procédé qui existe depuis les années 60, mais qui est plutôt utilisé à titre, enfin, de manière assez minoritaire, mais quand même aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, et notamment a été utilisé en France beaucoup dans le milieu vétérinaire, notamment lors de la crise de la vache folle. Voilà, où c'était le moyen de crémation des animaux.
Bon, bah écoutez,
on
verra si ça prendra en Chine. En tout cas, je pense que c'est le moment de faire une petite pause musicale et nous retrouverons Fabiani Deschamps et New Territories dans quelques minutes.
晶莹的眼泪，我不知道为何是海洋的滋味。红红的太阳一定会在刹那间沉睡，我不知道为何会天黑。那五彩蝴蝶吞噬着缕缕花露水，这一定是上天的恩惠。你总是说一切其实都无所谓，你总是说，你总是说，就像那潮汐。
Vous êtes bien sur Radio Campus Lille et vous écoutez Bruit de Chine sur le 106.6. Nous sommes avec Fabiani Deschamps à propos de son premier long métrage New Territories. Alors, vous avez souhaité, dites-vous dans un interview, déréaliser les images documentaires. Et pour cela, la musique est un point central. Alors, c'est peut-être le moment de nous parler de la musique d'Olaf Hunt, et puis après, on l'écoutera.
C'est sûr que c'est la musique dans ce film, elle est vraiment un protagoniste à part entière. Alors, sans trop déflorer et spoiler, comme on dit maintenant, voilà le film, c'est vrai que l'idée était de travailler à partir d'images documentaires et de travailler quand même à sans cesse les déréaliser, c'est-à-dire à la fois offrir des images communes. Alors évidemment, nous, on est ici en France, donc des images même les plus communes de Chine peuvent nous paraître très exotiques, mais là-bas, des choses de la vie quotidienne, mais de, effectivement, donner à sentir quelque chose de l'ordre de l'entre-deux-mondes. Justement quelque chose entre vie et mort. Et du coup, l'intervention d'Olaf Hunt, voilà, qui a composé vraiment une très longue partition sur le film, est vraiment un acteur majeur de cette expérience, on va dire sensorielle, d'être dans un état hypnotique. Moi, je voulais vraiment que le film, ce soit une expérience de déréalisation, mais quasiment une expérience presque proche d'un état de transe hypnotique, quelque chose qui ressemble à une longue méditation, à une espèce de prière avec ses scansions, ses obsessions et aussi ses dérèglements. Donc Olaf Hunt, il a composé vraiment une partition qui n'a rien de chinoise, voilà, qui est une partition qui mêle à la fois des choses très percussives, de la noise, une musique qui est très immersive en fait et qui déploie vraiment sous plein de formes le registre du film. Donc c'est des morceaux assez longs, c'est des morceaux assez oppressants. Il y avait l'idée de vraiment depuis le début que le film ce soit vraiment une expérience d'immersion, voilà, et la musique y contribue énormément.
En tout cas, il y a vraiment un côté très planant, comme on dit. Ben, peut-être qu'on l'écoute histoire de s'immerger dans cette ambiance.
Thank you.
Alors voilà, c'est la bande originale d'Olaf Hunt pour New Territories. Alors on a parlé de votre méthode de travail pour le tournage, mais on n'a pas parlé du scénario, parce que finalement ce scénario, il n'était pas gravé dans le marbre. Il y avait un petit côté improvisation, hasard, etc. Et ça, ça n'a pas dû être facile pour tourner comme ça.
Moi, je trouve au contraire que c'était une expérience assez, assez palpitante. Faut savoir, surtout dans le cinéma de fiction, il faut savoir que, en moyenne, pour faire un, je parle pour du cinéma indépendant, hein, des cinémas d'auteur, on parle que pour qu'un réalisateur fasse son premier long métrage, on parle de entre 5 et 7 ans. Et tout ça est dû, en fait, aux énormes développements financiers qu'on doit mettre en branle pour faire un film. Alors évidemment, plus un film coûte de l'argent, plus il faut amener des garanties. Et cette garantie, c'est le scénario. Et ce scénario peut très rapidement devenir une prison. C'est-à-dire à partir du moment où pour financer des films, il faut plaire au plus grand nombre, on est au risque de rentrer dans des formes de compromission parfois compliquées. Donc, pour moi, c'est évidemment, c'était très particulier la manière dont on a décidé de travailler, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de fondamental, en fait, que je voulais retrouver et qui était aussi un acte politique par rapport à c'est quoi être artiste, c'est-à-dire retrouver ma liberté d'artiste. C'est-à-dire que écrire un scénario pendant 4 ans, en faire 80 versions jusqu'à arriver à la version où tout le monde va être d'accord pour financer le film, ça demande tellement de compromis que parfois... C'est pas le cas de tous les réalisateurs, mais parfois on perd le souffle même du désir initial qui a fait qu'on s'est lancé dans cette aventure qui occupe plusieurs années. Donc pour moi, je n'ai pas vu ça du tout comme une entrave. J'ai vu ça vraiment comme une reconquête de ma liberté et de se réapprocher aussi de quelque chose qui est de l'ordre de la performance, du geste artistique qui contient parfois qui peut contenir des imperfections, mais qui est quelque chose qui retravaille de l'instinct, de l'instant et de la liberté. Surtout. Donc effectivement, on a développé quelque chose qui existe plus en documentaire qu'en fiction. C'est-à-dire qu'on est parti, on va dire, le film s'est tourné en 2 fois sur 2 ans. Et donc, lors du premier tournage, on est parti avec un canevas relativement élaboré, où on avait tout le mouvement du film, mais absolument pas une continuité dialoguée. On avait tout comme plein de champs thématiques, des champs de recherche. Et je suis partie avec mes acteurs, notamment à Hong Kong, avec ce canevas. Et on s'est dit que le film devrait se construire effectivement aussi en acceptant les accidents documentaires, l'idée donc par exemple Eve Bithoun, la comédienne à l'image du film, était équipée d'un micro-cravate. On tournait immergée dans les rues en cachette. En fait, et l'idée c'était d'improviser des situations où elle allait interagir avec ce quotidien, ou d'improviser aussi des situations, et aussi cela permettait d'aller dans des endroits où on n'aurait pas eu aussi d'autorisation simple, d'entrée pour tourner. Donc pour moi, ça a été plutôt une énorme liberté. Effectivement, le scénario, vraiment la vraie construction du film, elle est apparue dans un second temps. Et c'est comme c'est un film qui voulait vraiment proposer une expérience sensorielle, c'est un film qui devait mêler toutes les écritures du cinéma au même moment, c'est-à-dire pas faire l'étape classique qui est on écrit un scénario, on va tourner le film, on le monte, on monte les images, on rajoute du son, on rajoute de la musique et le film est fini. L'idée c'était vraiment de faire une création globale et que tout se construise en parallèle. Donc en fait on a tourné la moitié du film, je suis rentrée en France pendant une année, on a monté le film et le film s'est beaucoup écrit lors du montage. Voilà. En parallèle, s'écrivait la musique et l'idée, c'était vraiment de construire tout ça comme une espèce de partition. Et au bout d'un an, avec évidemment des chemins de traverse, d'autres désirs qui sont arrivés dans l'élaboration du film, on est reparti tourner en Chine les parties manquantes. Et c'est assez, quand on vient, on va dire, d'une manière de faire des films, on va dire, plus classique, ce que j'avais fait pour mes courts-métrages, pour moi, c'était vraiment une reconquête de la liberté. Et c'était d'autant plus fort pour moi de travailler comme ça dans un contexte où cette liberté était entravée, que ce soit la liberté de parole, la liberté de rite, la liberté de circulation des êtres, puisqu'on parle aussi de quelqu'un qui veut rentrer désespérément à Hong Kong, et que ben, justement la manière dont se produise le film, aussi de manière financière, du coup c'est un film à tout petit budget, également peut-être par choix, pour tourner vite, tourner librement, et voilà, que s'oppose en fait à tous ces manques de liberté un processus de création qui lui soit entièrement libre. Voilà. Mmh.
Moi je me demande si ce goût pour l'improvisation, c'est pas là qu'on retrouve la femme de théâtre.
Oui, plus ou moins, c'est-à-dire que effectivement, au théâtre, avec les acteurs, on rentre dans des processus, on va dire, d'écriture scénique qui peuvent passer effectivement par des phases de recherche et qui passent effectivement par des phases d'improvisation. Peut-être le goût. Et Eve Bitoun, une des deux comédiennes du film, elle est quelqu'un qui vient beaucoup de la performance. C'est un peu aussi une artiste performeuse. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi pour le film, parce que je savais qu'on serait parfaitement unis et on verrait ça de manière tout à fait amusante, en fait, de se dire ben, chaque matin on part avec un canevas mais on ne sait pas ce qu'on va faire, et les accidents du réel vont coordonner l'expérience de la journée. Donc en ça c'était assez amusant, voilà. Puis ça permettait aussi, si on avait rencontré des difficultés à tourner, de pouvoir tourner vite et bien en très peu de prises aussi. Voilà, il y a beaucoup d'endroits où c'était une prise, deux prises. Il fallait pas, voilà, comme on voulait que la vie continue à agir dans l'image, il fallait pas qu'on découvre le tournage. Donc il fallait faire les choses rapidement.
Vous n'avez jamais eu peur d'être repéré?
Non, après à Hong Kong il n'y a aucun risque, hein, par exemple là-dessus. En Chine continentale, c'est peut-être en découvrant le sujet du film qu'on aurait eu un risque d'avoir plus de problèmes. Après je pense qu'on avait pris un certain nombre de mesures, notamment d'envoyer les rushs très régulièrement, voilà. Après non, on n'a pas je pense qu'il fallait de toute manière qu'on parte tourner le film avec une certaine inconscience, en fait. Un peu d'arrogance et un peu d'inconscience. Voilà.
C'est sûr. Alors, puisqu'on parle d'immigration aussi dans ce film, puisque cette jeune Chinoise veut aller à Hong Kong, mais sauf que c'est illégal vu qu'elle n'a pas de visa, j'aurais envie que vous décriviez pour nos auditeurs ce poste frontière de Luowu, qui est quand même très mythique pour les Chinois et que moi j'ai trouvé, que j'ai passé et que j'ai trouvé impressionnant. Parce que des gens m'ont dit comment c'était avant. Avec le pont, enfin pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est quand même le lieu où beaucoup de Chinois de la République populaire de Chine ont pu tracer leur chemin vers la liberté après Tiananmen.
Bah, déjà, il y a l'arrivée donc à Shenzhen. Là où se fait la frontière. Alors évidemment, le pont de Luowu, alors il faut savoir, moi je l'ai filmé, c'est pas dans le film, on a réussi à le filmer parce qu'aujourd'hui il est entièrement encadré par un mur. Voilà, un mur de béton, voilà, qui s'élève. Donc le passage se fait à couvert. Il y a un canal et le canal est entouré de grands murs de béton. Et effectivement, ben, ce qui est très frappant déjà symboliquement, quand on regarde la frontière vue d'en haut, c'est que donc Shenzhen, on est vraiment dans l'urbanisation extrême et pas du meilleur goût. Et de l'autre côté, il y a les nouveaux territoires. Et les nouveaux territoires, et j'espère qu'ils resteront comme ça malgré les problèmes importants de place à Hong Kong, voilà, les nouveaux territoires, c'est encore et principalement des parcs nationaux extrêmement sauvages, de la montagne tropicale. Et donc, on a les montagnes des nouveaux territoires. Et il y a vraiment quelque chose, quand on regarde la frontière de Hong Kong depuis la Chine continentale, on voit ces montagnes et cet horizon et la mer au loin, et on a vraiment l'impression de passer en paradis terrestre, ce qui n'est pas réellement le cas. Après, de manière absolument moins glamour et poétique, la frontière se passe dans un énorme centre commercial. Voilà, Shenzhen est un peu un centre commercial à ciel ouvert. Il y a une... Et concrètement, après, je pense que c'est la frontière la plus longue que j'ai eu à passer de ma vie. Il y a 4 postes frontières. Nous, on a passé la frontière en train. C'est comme ça qu'on passe à Hong Kong par le train qui relie Canton à Kowloon. Et je crois qu'il y a 4 postes frontières. Voilà, donc c'est extrêmement long et évidemment extrêmement sécurisé, extrêmement contrôlé.
Et puis il y a une foule, parce que finalement, les Hongkongais travaillent parfois de l'autre côté à Shenzhen et vice-versa. Donc il y a une espèce de va-et-vient perpétuel.
Oui, après c'est vrai qu'effectivement c'est comme c'est les deux zones économiques spéciales, je pense qu'il y a vraiment une rotation de travailleurs pour des enjeux principalement commerciaux, effectivement, qui est très très qui est assez impressionnant, effectivement, cette foule. Mais après effectivement l'immigration ne serait-ce qu'un visa, on va dire temporaire, pour les Chinois de la Chine continentale pour Hong Kong, c'est extrêmement réduit. Je crois que c'est une centaine de visas, une centaine de passeports d'immigration autorisés par an.
Ah bah oui, non, mais c'est pour ça que ce qui explique le contrôle impressionnant. Et moi, j'ai pris un bateau à Shenzhen pour aller à l'aéroport de Hong Kong, donc sur l'île de Lantau. Et quand on débarque sur le port de Lantau, il faut prendre un bus pour aller à l'aéroport. Et ce bus a été arrêté au milieu de la route et des policiers sont arrivés et ont passé dans tout le bus et sous le bus des espèces de poils à frire, de détecteurs. D'abord pour voir s'il y avait personne et puis s'il n'y avait pas des choses cachées dans le bus. Ce qui fait qu'on se sent extrêmement surveillé. Et c'est effectivement, moi je trouve, la frontière où on sent que l'immigrant est traqué.
Ah oui, oui,
ça va devenir comme ça en Europe bientôt, hein, j'imagine.
Oui, oui, je crois qu'il y a pas mal de murs dans le monde, voilà, mm-hmm. qui sont en train de s'ériger de la même manière. J'espère que ça ne deviendra pas comme ça en Europe. En tout cas, la frontière européenne va être un peu plus difficile à couvrir que la petite langue de terre qui sépare Hong Kong de la Chine continentale. Mais effectivement, les problématiques sont les mêmes. C'est-à-dire, on est toujours dans j'ouvre aussi parce qu'évidemment la question des migrants en Europe aujourd'hui elle est centrale, mais on peut pas vendre d'un côté, selon moi, le miroir aux alouettes d'un monde globalisé, mondialisé, la mondialisation où chacun a accès à tout, et de l'autre côté interdire aux êtres la libre circulation le droit de libre circulation. Donc forcément c'est une problématique mondiale et c'est une problématique qui sera de plus en plus parce qu'elle est complètement à l'opposé de ce qu'on a essayé de nous vendre avec l'idée de la globalisation et de la porosité culturelle et de la mixité. Voilà.
Et cette problématique, elle est tellement centrale pour vous que vous en avez fait celle de votre prochain film que vous tournez actuellement en Italie, qui s'appellera Isola.
Oui, mais au sortir de New Territories, enfin je veux dire du tournage, puisque le film est toujours en salle actuellement, j'avais effectivement très envie de faire un volet européen, voyant effectivement depuis quelques années ce drame complètement assourdi. Alors il l'est moins ces derniers temps, mais voilà, au moment où on a décidé de partir tourner Isola, donc le film est tourné effectivement sur les îles du sud de l'Italie, notamment Lampedusa, où arrivaient sur les côtes siciliennes mais un nombre sidérant de personnes dans des états vraiment parfois critiques, c'est-à-dire on parle de 5000 à 6000 personnes qui arrivaient par jour dans un silence médiatique quasi ahurissant. À peine parlait-on lorsqu'il y avait un drame, genre ah oui, 500 morts hier dans les eaux entre Gabès en Tunisie et Lampedusa. Et donc voilà, il y avait l'idée de poursuivre en fait aussi l'expérience de New Territories et de travailler aussi, de continuer à travailler sur l'idée d'utiliser l'actualité, c'est-à-dire des choses vraiment très aiguës dans l'actualité, mais de les aborder par le biais, on va dire, du conte ou du fantastique. Et donc voilà, c'est ce film à venir et un on va dire le miroir européen de New Territories, même si c'est un film formellement très très différent.
Et il explore encore de nouveaux territoires, sans jeu de mots, et on retrouve une Chinoise. Cette Chinoise, c'est la même actrice que que c'est The New Territories et un Africain. Pourquoi ce goût pour cette actrice chinoise ?
Pour elle, pour
cette actrice exceptionnelle.
Donc, d'une part, elle est taïwanaise. Elle n'est pas chinoise. Elle est taïwanaise. Bien la rencontre avec cette comédienne, il y a des gens qui vous inspirent et donc effectivement on a fait ce premier film ensemble, New Territories, où on peut dire qu'elle est la protagoniste du film, mais encore une fois sans spoiler, c'est une protagoniste qui a une place très particulière dans New Territories puisque elle est tout le temps immatériel. Et pourtant, c'est elle qui porte toute la puissance émotionnelle du film. C'est cette incarnation invisible qu'elle a. Donc, je pense que le fait, voilà, j'avais très envie de prolonger l'expérience avec elle. Et aussi l'idée de pourquoi mettre une chinoise migrante à Lampedusa, c'est le comble de l'absurdité en termes de chemin migratoire. Mais justement, au même titre que New Territories, je voulais que non pas seulement explorer la Chine, mais que cette expérience chinoise nous renvoie un miroir à notre société, à nous. Je veux qu'Isola, en fait, ne parle pas seulement de l'actualité migratoire isolée de méditerranéenne, on va dire, et proche-orientale,
mais toutes les migrations.
Mais soit construise une histoire, on va dire un conte qui est plus universel en fait, et qui collusionne encore une fois des extrêmes culturels, mais des extrêmes culturels qui se rencontrent dans des problématiques qui sont absolument similaires. Donc voilà, Isola, c'est un conte effectivement où des gens du monde arabe, des gens du monde européen, des gens du monde asiatique se retrouvent à cohabiter dans une île imaginaire qui elle aussi est entre deux mondes. Voilà, je suis ma route.
Exactement. Et cette actrice, je le rappelle, c'est Yilin Yang. Eh bien, Fabiani Deschamps, merci. Je rappelle que si vous habitez la métropole lilloise, vous pouvez voir New Territories ce soir au cinéma Le Méliès à Villeneuve-d'Ascq, c'est au métro Triolo. Demain, c'est à Montluçon, au cinéma Le Palace, et puis d'autres dates à Castres et ailleurs un peu plus tard.